RFI, toute l'actualité.
Édouard Dupenoit.
Il pèse un tiers du PIB mondial, il concerne 635 millions de consommateurs. Et pourtant, il fait relativement peu de bruit. C'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon. Il entre en vigueur aujourd'hui. La quasi-totalité des droits de douane sont supprimés, ou en tout cas vont l'être, entre l'archipel et l'Union européenne. L'Europe espère exporter des produits agroalimentaires, tandis que le Japon, de son côté, compte bien faire rouler plus de ses voitures sur le vieux continent. Pour en parler avec nous, nous sommes en ligne avec Sébastien Jean. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Et vous êtes d'ailleurs l'un des auteurs de la synthèse annuelle de ce centre sur l'économie mondiale en 2019. Alors, ce traité de libre-échange entre l'UE et le Japon, on imagine bien qu'il ne date pas d'hier. D'où vient cet accord et depuis quand est-ce qu'il est négocié?
Alors, le mandat de négociation a été donné par les pays membres de l'Union, par le Conseil, à la Commission en novembre 2012. Donc, ça ne date pas d'hier, effectivement. C'est une négociation qui a été longue et complexe, avec pas mal d'épines. Et au fond, c'est Donald Trump qui a donné, paradoxalement, la motivation pour conclure rapidement la négociation, pour arriver à la fin, parce que face à son agressivité, à son unilatéralisme dans les relations commerciales, je pense qu'il y a eu de part et d'autre, pour l'Union européenne comme pour le Japon, une motivation plus forte encore à nouer ce partenariat entre eux.
Alors cette motivation, elle a peut-être été exprimée par Jean-Claude Juncker tout à l'heure, le président de la Commission européenne, puisque déjà au mois de juillet, il avait eu une phrase très symbolique, il avait dit « il n'y a pas de protection dans le protectionnisme ». Est-ce que l'Europe est en train de tendre la main à d'autres partenaires commerciaux que les États-Unis? Est-ce qu'elle est en train de leur tourner le dos quelque part?
Leur tourner le dos, je ne dirais pas forcément ça, mais depuis quelques années déjà, effectivement, l'Europe a décidé d'avoir une politique assez ambitieuse, assez agressive sur les accords commerciaux dont elle multiplie les négociations. Ce qui n'est pas sans poser d'ailleurs un certain nombre de questions. Alors on a vu qu'il y avait beaucoup de controverses autour de certaines de ces négociations. Et puis ça pose vraiment la question de savoir si ça ne pose pas plus de problèmes que ça n'en résout. Celui avec le Japon, à mon sens, il est un peu singulier parce que c'est un très gros partenaire. Hein. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'ensemble, les deux partenaires, c'est 30% du PIB mondial, c'est énorme. Mais c'est aussi un partenaire très lointain. Et donc, les relations commerciales entre l'Union européenne et le Japon représentent en fait moins d'1% du commerce mondial. Donc, ça n'est pas forcément quelque chose de si important que ça au regard des relations bilatérales entre les deux pays, mais plutôt par leur coopération, leur alliance par cet accord qui va leur donner un poids important, en particulier dans des secteurs où ils sont conjointement très forts, je pense à l'automobile, à la chimie, à la mécanique, à l'aéronautique, etc.
Alors tout ça, ce sont effectivement des produits que le Japon souhaiterait pouvoir exporter vers l'Union européenne. De son côté, du côté de l'Europe, ce serait plutôt des exportations de produits agroalimentaires vers l'archipel. Ça devrait se traduire par la reconnaissance d'environ 200 appellations d'origine protégée. Concrètement, est-ce qu'il y a aujourd'hui des produits fabriqués en Europe qu'on ne peut pas exporter au Japon et qui vont être autorisés avec ce traité?
Alors, bon, là, on parle des changements à la marge, hein, mais l'essentiel des échanges entre l'Union européenne et le Japon, c'est des échanges industriels avant tout. Maintenant, quand on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va changer avec l'accord, alors c'est pas autorisation versus interdiction, c'est plutôt le niveau des protections, et puis la compatibilité des normes entre les deux pays. Et effectivement, on a souvent brocardé un peu cet accord comme étant l'accord voiture contre fromage, sous-entendu voiture japonaise, parce que ça leur permettra de ne plus subir un droit de douane de 10% à l'entrée du marché européen, versus fromage, parce que dans les fromages en particulier, les produits laitiers, les Européens sont très performants, et les normes japonaises, souvent les tests, les normes sanitaires rendaient difficile de vendre sur leur marché. C'est vrai que à la marge, ça peut compter, mais par exemple, les Européens espèrent aussi pouvoir plus facilement accéder au marché japonais sur l'automobile, parce que dans le cadre de cet accord, ils ont fait accepter au Japon le cadre international de régulation, enfin de normalisation de l'automobile, l'accord qui est déjà utilisé, appliqué en Europe, qui est l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies.
Alors, on sait que, par exemple, et j'en reviens à l'Union européenne, il y avait beaucoup d'agriculteurs et de producteurs européens qui avaient souffert, il y a de ça bientôt 5 ans, de ne plus pouvoir exporter leurs marchandises en Russie. C'était une décision de Moscou en réponse aux sanctions européennes après le conflit en Crimée. Est-ce que le fait de pouvoir exporter plus facilement au Japon, ça peut pallier ou au moins aider à pallier ce défaut d'exportation vers la Russie?
Il n'y a pas forcément de compensation directe, ce ne sont pas forcément les mêmes secteurs. Je crois que ce qui est important, c'est que dans le cadre de ce type d'accord, il y a moins d'incertitudes, il y a moins d'irruptions comme ça, de mesures un peu utilisées à des fins politiques ou à des fins un peu protectionnistes. Ça, l'examen des accords précédents, de l'historique, des évolutions montre qu'il y a beaucoup moins ce genre d'accident dans le cadre des accords parce que c'est un partenariat, parce que il se double cet accord, enfin il crée des instances de coopération qui permettent de traiter directement et assez en amont ce type de problème. Donc j'y vois plutôt une forme de mécanisme d'assurance et de réduction de l'incertitude sur ces relations commerciales potentielles, en gardant en tête quand même, encore une fois, que le Japon c'est très loin, donc c'est pas non plus le débouché naturel de l'agriculture européenne, ça ne peut l'être que pour des produits quand même très haut de gamme.
La frontière physique. Merci beaucoup Sébastien Jean d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RFI.